Emmanuel Grabet pour le journal. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à toutes et à tous. Deux vidéos, quatre policiers en garde à vue, une nouvelle affaire de violence policière et les mots d'Emmanuel Macron hier soir sur les réseaux sociaux. La tension monte encore d'un cran à quelques heures de nouvelles manifestations contre la loi sécurité globale. Dans quelques heures aussi, la fin de l'attente pour les commerçants fermés depuis plus d'un mois et leurs clients qui seront moins nombreux. En même temps, dans les boutiques, protocole sanitaire renforcé oblige. La Banque Alimentaire qui fait appel à votre générosité, c'est leur grand week-end de collecte annuelle. Et puis le dernier match de poule ce soir de Coupe d'Europe, de Coupe d'Automne des Nations pour le 15 de France. Un hommage évidemment sera rendu à l'un des joueurs de légende des Bleus, Christophe Dominici.
Les invités de la matinale à 8h-10, Patricia Martin, vous recevrez
Michael Perromor, chef du service d'urologie de l'hôpital Cochin à Paris et qui publie un livre sur l'hôpital.
Et puis à partir de 8h20, question ce matin à Clémentine Autain, députée de la France Insoumise. Elle signe le livre « À gauche, en sortant de l'hypermarché », critique des grandes surfaces alors que rouvriront donc ce matin les commerces de proximité.
France Inter.
Une nouvelle vidéo du média en ligne Loopsider, publiée hier, accable encore un peu plus les policiers mis en cause dans l'arrestation d'un producteur de musique. C'était jeudi soir dans le 17e arrondissement de Paris. On y voit des policiers tenir l'homme à terre et le frapper, d'autres qui observent sans réagir. Et finalement, quatre policiers mis en cause, actuellement en garde à vue dans les locaux de l'IGPN, la police des polices, sur la base des images d'une première vidéo, celle de la caméra installée dans le studio d'enregistrement où travaille le producteur David Giacomo.
Face à ces images accablantes, les enquêteurs de la police des polices attendent maintenant des explications de la part des quatre fonctionnaires mis en cause. Ils sont entendus depuis hier après-midi pour une série d'infractions graves. Pour trois d'entre eux, la qualification de violence à caractère raciste est retenue par le parquet. Il s'agit des fonctionnaires qui sont entrés dans le studio d'enregistrement des policiers de la brigade territoriale de contact du 17e arrondissement de Paris. Ces gardes à vue portent aussi sur des soupçons de faux en écriture publique. Il est reproché en effet aux policiers d'avoir rédigé et signé des déclarations mensongères pour justifier l'interpellation de Michel Zecler. Il est possible que ce producteur de musique soit confronté aux policiers pendant leur garde à vue qui peut durer jusqu'à 48 heures. Michel Zecler affirme avoir été traité de sale nègre à plusieurs reprises lors de cette interpellation, qu'il ne s'explique toujours pas, si ce n'est qu'il ne portait pas de masque quand il a croisé cette patrouille de police.
David Giacomo, une nouvelle affaire qui aurait pu ne jamais être révélée avec la loi sécurité globale en cours de discussion au Parlement et son article 24 qui veut restreindre la possibilité de filmer les forces de l'ordre. Manifestation contre cette loi aujourd'hui à Paris, à Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Marseille et même devant les ambassades de France à Berlin et La Haye. Hier, ils étaient déjà plusieurs milliers à Nantes ou à Besançon. Face à cette nouvelle affaire de violence policière, Emmanuel Macron sort de son silence sur Facebook et Twitter. Il parle d'images inacceptables qui nous font honte et demande au gouvernement de faire rapidement des propositions pour réaffirmer le lien de confiance qui doit dit-il naturellement exister entre les Français et ceux qui les protègent. Un lien rompu par endroits depuis bien longtemps déjà. Exemple, en Seine-Saint-Denis, beaucoup de jeunes dénoncent des contrôles de police abusifs, des violences injustifiées dans les quartiers populaires surtout, à tel point que les parents apprennent parfois dès le plus jeune âge à leur enfant comment se tenir, comment bien se tenir face à un policier. Reportage cité du Framoisin à Saint-Denis à Gérard Mohamed.
Nadia est mère de 4 enfants et elle est catégorique.
En tant que parents ici, on a tous peur que si nos enfants ne reviennent pas, c'est qu'il y a eu une intervention de la police du quartier.
Une police qui cible les jeunes de la cité sans raison, selon Laura, une autre maman.
Ils viennent comme des cow-boys pour allumer la mèche. Moi, je l'ai vu pendant le confinement, ils ont contrôlé que les jeunes. Ils n'ont pas contrôlé les mères de famille, ils n'ont pas contrôlé les papys. Voilà.
Alors quand son fils sera plus grand, elle lui donnera quelques conseils, nous dit-elle.
Change de trottoir, enlève ta casquette, t'habilles pas de telle ou telle manière.
Pourtant, ça n'a pas toujours été comme ça. Nadia, qui a grandi au Framboisin, se souvient des policiers de son enfance.
Ils étaient à l'écoute, ils jouaient au ballon avec nous, sur des terrains, c'était super bien.
Alors qu'aujourd'hui...
Ici, on a un problème, on n'appelle pas la police.
Dans le quartier, beaucoup de jeunes ont vu les images du passage à tabac comme Florian, 10 ans, et pas vraiment rassuré depuis.
Parce que quand je vois dans la télé, ils frappent les gens, moi aussi, j'ai peur qu'il me frappe. Il doit faire la sécurité pour les gens, pas pour les taper.
Pourtant, le petit garçon nous le dit, il y a aussi des policiers gentils. Ryan le pense aussi, mais pour ce lycéen, il faut que les méchants partent.
Parce que bon, une personne, juste parce qu'elle a la peau noire, se fait arrêter, je trouve pas ça normal.
Faire le ménage dans la police pour lui refaire enfin confiance, c'est ce que réclament beaucoup de parents rencontrés au Franc-Moisin.
Et puis à lire ce matin, l'histoire d'un mec qui avait peur de la police, le titre de la tribune de Magid Cherfi du groupe Zebda, un patriote comme il se décrit. Lui-même amoureux de la République, qui aime la France, vote comme un dévot, qui avait des copains flics, mais qui se sent suspect face au képi, triste de se sentir coupable, même quand on est innocent, c'est à lire ce matin dans Libération.
La nouvelle attestation de déplacement est en ligne depuis minuit.
Oui, celle qui correspond à nos nouvelles possibilités de déplacement, 3 heures par jour, un rayon de 20 km. Le confinement se desserre dès ce matin, comme l'a promis le gouvernement, avec surtout ce que beaucoup attendent, la réouverture des commerces dits non essentiels, fermés depuis un mois maintenant. Des commerçants soulagés, malgré le protocole sanitaire renforcé à appliquer, qui implique moins de clients en même temps dans une boutique. Soulagés, Raphaël Ebenstein, tellement les enjeux économiques sont importants d'ici Noël.
Les dernières semaines avant Noël représentent à elles seules environ 40% des ventes annuelles dans les magasins de jouets, 25% dans les librairies, les bijouteries ou les parfumeries. Et une fermeture prolongée des commerces en décembre leur aurait fait perdre au total plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, selon une étude de l'assureur crédit Euler Hermès, alors qu'ils affichent déjà une baisse moyenne de chiffre d'affaires de 10% depuis le début de l'année par rapport à 2019. Il ne faut donc pas s'attendre à des promotions immédiates, car les commerçants ont besoin d'écouler un maximum de leur stock sans avoir à les brader. Des discussions, même d'ailleurs commencées avec le ministère de l'Économie, dans l'optique d'un possible décalage des soldes d'hiver, normalement prévu à partir du 6 janvier.
Raphaël Ebenstein, une réouverture des commerces qui tombe à point nommé en plein dans la grande collecte annuelle des banques alimentaires. Elle a débuté hier, elle se poursuit aujourd'hui, alors que la crise sanitaire fait exploser la précarité dans le pays. Des bénévoles positionnés, vous le verrez un peu partout en France, comme dans ce centre commercial de Rennes. Reportage Loïc Guélec.
Dans la galerie marchande, des femmes et des hommes en gilet orange, couleur de la banque alimentaire, sont en train de trier les nombreux produits déjà collectés. Pâtes, riz, sucre, farine, conserve. Philippe, un bénévole.
C'est important, en tant que bénévole, de participer à cette campagne nationale sur ce week-end. Il y a une bonne ambiance entre bénévoles et puis les gens qui nous contactent ont le sourire. Donner, c'est agréable.
Des sacs tout prêts avec un panel d'articles sont également proposés à deux tarifs différents. C'est ce que vient d'acheter Aboubakar, un salarié qui pense à toutes les victimes de la crise.
C'est important quand même que les personnes qui arrivent à s'en sortir quand même puissent aider les autres. Et moi-même, au vu de ma situation, je n'ai pas un énorme salaire, mais je me dis quand même que c'est important de partager avec ceux qui n'en ont pas.
Pierre contribue, lui, chaque année.
On voit bien qu'il y en a de plus en plus de gens qui en ont besoin. Et donc, quand on a la possibilité de le faire, je crois que c'est essentiel. Ça fait partie de la solidarité, on en a vraiment besoin en ce moment.
La collecte est plutôt bien partie dans les 150 magasins du territoire. Gérard Buineau, responsable de la communication.
Bon, l'année dernière, on avait collecté 175 tonnes. Dans le magasin où je suis, à Carrefour Alma, c'était 5 tonnes. On espère faire au moins aussi bien cette année. On est confiant, de toute façon. On est confiant, on est bénévole, on est là pour ça.
Ce week-end de collecte représente la moitié des dons annuels de la Banque alimentaire de Rennes.
Et la Fédération des banques alimentaires qui irriguent ensuite plus de 5000 associations comme la Croix-Rouge.
En Iran, le président Hassan Rouhani accuse Israël d'avoir assassiné le cerveau du projet nucléaire iranien.
Oui, Téhéran qui promet une vengeance terrible contre les commanditaires de cette action. Mohsen Farizadeh, au cœur depuis plusieurs années des préoccupations israéliennes. Les explications depuis Jérusalem, Alice Roussard.
Son nom avait été cité en avril 2018 par Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien, lors d'une intervention télévisée. Il l'accusait alors d'être l'un des hauts responsables du programme nucléaire de Téhéran. « Souvenez-vous bien de lui », avait-il affirmé. Il faut savoir que l'Iran, c'est en quelque sorte l'obsession israélienne à qui on attribue une quantité d'attentats ciblés mais qui n'ont jamais été proprement revendiqués. Le contexte a aussi son importance. Ces derniers jours, le gouvernement israélien ne cachait pas son inquiétude à voir la future administration Biden adopter une attitude plus ouverte à la négociation iranienne, contrairement aux 4 années de la présidence de Donald Trump qui s'était retiré de l'accord avec les grandes puissances signé à Vienne en 2015 portant sur le programme nucléaire de Téhéran. Nous ne devons pas revenir à l'accord de 2015, précisait encore Benjamin Netanyahou ce dimanche. Et puis la semaine dernière, le site américain d'information Axios annonçait que les forces israéliennes avaient reçu pour instruction de se préparer à de nouvelles frappes américaines contre l'Iran avant que Donald Trump ne quitte ses fonctions. Bref, tout cela intensifie le risque d'escalade dans la région. Jérusalem, Alice Froussard, France Inter.
Et puis la Coupe d'automne des Nations de rugby, dernier match de poule pour le 15 de France ce soir, match à huis clos au Stade de France face à l'Italie. Ce sera évidemment l'occasion d'un grand hommage au tricolore emblématique Christophe Dominici, mort cette semaine à l'âge de 48 ans. Les rugbymen et le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, toujours sous le choc.
Tous les joueurs porteront sur le bras gauche, sur la manche du bras gauche, son surnom, Domi. Il y aura une grande bâche qui le remerciera. On fera une nuit de silence. Je veux que ce soit un très grand hommage à la hauteur de ce qu'il a apporté au rugby français. C'est 67 sélections, Christophe. C'est 5 fois champion de France. C'est 4 tournois de gagnés, dont 2 grands chelems. Enfin, c'est un palmarès extraordinaire. C'est ce que je disais aux joueurs. Je vous souhaite à tous d'avoir le même palmarès. Mais au-delà de ça, on a perdu et j'ai perdu personnellement un ami, voire un frère. Le rugby français est dans la peine. Moi, personnellement, j'ai du mal à réaliser. C'est vrai qu'on a du mal.
Voilà. France-Italie, coup d'envoi de la rencontre à 21h10 ce soir.
On suivra ça. C'était le journal d'Emmanuel Grabel.